Le chemin des mots. Arrête-toi. Attends. Écoute. Souviens-toi. Le mot chiffonné sur du papier glacé. Le verbe poétique caché dans la phrase. Donne vie aux images. Grave son nom sur un tronc d'arbre. Écris le tumulte des eaux. Imagine les elfes s'abritant sur un rayon de lune. Embrasse le texte dans son renouveau. Relis-le, chante-le, offre-le, une nouvelle en voyage sur le chemin des mots.
Selon Flannery O'Connor, autrice américaine du XXe siècle, l'endroit d'où vous venez n'existe pas. Celui que vous pensiez aller un jour n'a jamais existé. Et celui où vous êtes ne vaut quelque chose que si vous pouvez en partir. Où donc se trouve-t-il l'endroit où vous pourriez vous arrêter ? Nulle part.
Où sommes-nous ? Comment rêvons-nous ? Que faire des fragments d'histoire qui peuplent notre mémoire ? Pourtant, sur les pas de Georges Perec, nous partons en quête de ces petits morceaux du quotidien, de ces choses vécues, partagés avec les autres gamins ou gamines que nous étions. Les textes que nous proposons sont issus de notre imagination. Alors, où sommes-nous ?
Souvenirs et ses retours cocasses. Ce petit bout d'homme du Moyen-Âge et d'âge moyen est entré dans une cour royale à coups de pied au derrière. Une cabriole le fait retomber sur ses mains. Avec cette farce et toutes ses facéties, il fait rire le champ de foire. Il grimace mieux que son singe en gonflant ses joues. Alors il joue ce personnage grotesque qui lui est donné, ou ordonné. En traboulant ainsi, il devient fou du roi, le premier bouffon à s'appeler Triboulet. Seulement, au banquet, le bouffon ne bouffait pas, ignoré après ses pitreries. Il se perd dans les dédales du château pour trouver un soupirail pour ses soupirs. Il trottine sur ses courtes jambes, ce qui lui donne une allure de mille pattes, rampant dans des bas-fonds à quatre pattes. Pour monter dans les tours, il se désarticule comme un beau diable, les hautes marches escaladées au rythme de ses grelots l'ont sonné. Il souffle comme un bœuf, s'essuie le front de sa marotte, découvrant son crâne chauve. Sourit à cette tête à l'envers. Puis, le fessier enveloppé d'une culotte bouffante se place, coincé, dans le carré du mâchicoulis. Il mâchouille sur un reste de dents, un coup de volaille chapardé, en observant le village, devenu plus petit que lui. L'animal, cet autre nom qu'on lui attribue, grogne, marqué au fer rouge, puisque fils de sorcière, disait-on, il faut se méfier, il pourrait avoir du pouvoir. Pourtant, ce disgracieux bonhomme fait rire les seigneurs, et grâce au ciel, on lui fait l'aumône d'un regard. Ce moins que rien a du bagout. Il est écouté par la cour, les couronnés et les soi-disant pauvres moignillons. Le sénéchal en service de l'abbaye est énorme comme une barrique. Tous se goinfrent et avalent ses boniments jusqu'à l'orgie. Sa verve irrite les autres saltimbanques, jongleurs, ménestrel. Il est le nouveau troubadour, trouble-fête, qui vole la place du roi. D'où lui vient ce don d'amuser la galerie? Ce destin? Une galère, même si c'en a pas l'air. Son corps se déforme de plus en plus. Bientôt, faudra le cacher au fond d'un cachot, car déjà, on le torture, on le fouette sans raison, pourvu qu'il rebondisse par une pirouette. Le bouffon finit par passer le pont-levis à l'envers d'une galipette. Forcé de jeter aux oubliettes ce décor maléfique, son costume affreux, les murailles trop hautes, le donjon sans princesse. Il passe dans un autre temps, pour un autre passe-temps. Il se fera passe-partout dans un fort boyard pour gaillard.
Parcours d'un mytho non repenti. Qui j'aperçois ce matin? L'ami Bruno. Guitare dans le dos, tout de jean vêtu, serre-tête rouge, bracelet irisé au poignet, tatouage christique à l'avant-bras. Le voici qui me hèle bruyamment. Oh, Chris, je pars en India, je vais faire du stop à la sortie de la ville. Nous sommes dans l'artère principale de Brest. Si vous voulez vous faire remarquer en toute indiscrétion, c'est bien là qu'il faut être. Bruno se rapproche en parlant de plus en plus fort. Je me donne un mois pour arriver là-bas sans trop dépenser. Quelques badauds se retournent sur nous. Intéressés ou intrigués? Je souris, embarrassé. Je connais la musique. Bruno a déjà fait le coup. Il ne joue pas de la guitare. Il n'ira pas en Inde. Retournera sur ses pas sans sortir de la ville, en espérant avoir rencontré un maximum de gens. De préférence, ceux de la gente féminine, à qui il parlera de ses futures aventures. Puis il rentrera dardard, calé au fond d'un bus, qui le ramènera au centre-ville, sans surtout se faire voir. Jusqu'à la prochaine fois. Que peut-il penser en ce moment? Est-il penaud ou s'amuse-t-il de ses blagues? Comprend-il sa propre attitude ou est-ce plus fort que lui? J'acquiesce à ses mensonges, un sourire amusé et à la fois désabusé. Je ne sais quoi lui répondre, si tant est qu'il faille lui répondre. Bruno doit être dans un monde où il est Dieu tout-puissant. Bruno est mythomane. Il n'enjolive pas, il invente. Je ne sais pas s'il faut le contredire ou accepter diplomatiquement, voire hypocritement, son délire. Après tout, si ça lui fait plaisir. Je lui souhaite simplement un bon voyage. Il me tapote sur l'épaule. T'inquiète pas, ça va aller. Quand le routard revenu d'Inde devient barman. Dans cette période des années 70, difficile de trouver du boulot par chez nous. Très difficile, quel que soit le secteur. Je croise le pote Bruno revenu en express de son périple indien. Il semble avoir totalement oublié que l'on s'est vu 3 jours plus tôt pour son départ. Je suis époustouflé. Je me rends compte. La mythomanie n'a guère de soucis de cohérence. N'a pas de mémoire. C'était chouette ton voyage? Il me regarde. L'œil soupçonneux ne répond pas. C'est moi qui suis gêné. Je n'insiste pas. Je passe à autre chose. Et lui aussi. Oh Chris, super. J'ai trouvé un poste de barman. Bref, tout de suite dans l'ambiance. Ah ouais, c'est chouette. Passe demain à l'heure de l'apéro, je t'offre un verre. Moi, très très dubitatif. Je grogne un oui, qui veut dire non. Ben si, passe, ça me fera plaisir, promis? Il me fait alors une description très précise de l'endroit. Ah oui, je vois, un troquet peint tout en jaune. Oui, c'est ça. À voir sa mine réjouie, son exaltation, je mords à l'hameçon. Bon, ok, demain midi. Je me dis qu'il doit être bien vu de son patron pour offrir des verres à ses potes dès les premiers jours d'embauche. Peut-être a-t-il acheté le bar. Non, je plaisante. Midi le lendemain, grâce à la description d'hier, pas moyen de se tromper. J'entre dans le bar et m'installe au comptoir. Pas de Bruno à l'horizon, mais je ne m'en inquiète pas. Un serveur s'avance vers moi. Un café, s'il vous plaît. J'en profite. Bruno n'est pas là ? Il me répond sèchement. Il n'y a pas de Bruno ici. Peut-être pense-t-il avoir affaire à un importun, un chercheur de noises. Moi, j'écrase. Putain, c'est pas vrai, dans un coin de la tête. Maintenant, il me sert le café, toujours pas aimable. Je suis pas prêt de revenir. Voilà, la partie est déjà finie. Game over. Bruno a encore menti, se ment à lui-même, sans aucun doute, et continuera à mentir. Un détail pour finir. Bruno n'existe pas. Il n'est que le fruit de mon imagination.
Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Rainer Maria Rilke.
Souvenirs d'enfance. Dans les années 60, nous habitions un de ces bâtiments construits après-guerre, en briques jaunes et rouges et appelés les bâtiments rouges, en opposition à ceux du bas de la rue qui étaient en béton gris, d'où leur nom, les bâtiments gris. Nos bâtiments ceinturaient une grande cour plantée d'arbres et un préau. Nous étions une trentaine d'enfants dans les mêmes âges et ne fréquentions pas ceux des bâtiments gris. Côté rue, il y avait la loge du concierge, ainsi que l'épicier M. Legac. Ceux des bâtiments gris avaient aussi leur épicerie, et surtout la boulangerie, qui vendait Mistral gagnant et pochettes surprises. En automne, le tapissier prenait possession du préau et refaisait matelas et sommiers, tandis qu'un rémouleur affûtait couteaux et ciseaux. Le rémouleur était un bohémien qui s'installait sous un tilleul face aux bâtiments gris. Nous avions interdiction d'approcher la roulotte et le cheval, car en plus d'être voleurs, les bohémiens enlevaient les enfants pour les vendre. Voilà ce qui se disait. Dès que nous avions quelques centimes, nous courions chez M. Legac acheter des bonbons. Quand le compte n'y était pas, il nous posait une devinette du genre « Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? Qu'est-ce qui est plus lourd, un kilo de plumes ou un kilo de plomb ?» Nous avions beau retourner les questions dans tous les sens, nous ne trouvions jamais. Alors il demandait à mon frère, qui avait un an de moins que moi et une voix de stentor, de chanter Dodo Minette. Et nous empochions tous un caramel à un centime. Ce qui me fascinait dans cette épicerie, c'était les bocaux de bonbons que je regardais avec gourmandise. Il y avait là des carambars, des malabars, des roux-doudous, des boîtes de coco à 10 et 20 centimes, des bois doux, des sucettes au caramel, des berlingots, des bonbons à la violette, des coquelicots, des rouleaux de réglisse, des boules de coco, des petits jésus en meringue, des sucres d'orge et tant d'autres friandises. Mais celles que nous convoitions, nous, les filles, c'étaient les serpents en guimauve avec une bague en plastique en leur milieu. Si nous adorions M. Legac, il en était autrement du père Grenet qui était tout son opposé. Pas aimable, ne répondant jamais à nos bonjours, toujours habillé d'une veste de travail bleu délavé. Une casquette de marine lui couvrait la tête, lui qui n'avait jamais mis les pieds sur un bateau. Il avait une joue creuse et l'autre gonflée et campait toute la journée devant le local à poubelle. Régulièrement, il crachait des molars d'un jaune brunâtre qui me dégoûtait. C'était le tabac de sa chic qu'il recrachait. C'est lui qui égorgeait les poulets que certaines femmes achetaient vivants, et il empilait de vieux journaux dont je ne savais à quoi ils étaient destinés. C'est en courant après une balle perdue que je l'aperçus. Il se tenait à côté du père Grenet, sale, les cheveux ébouriffés, un pantalon trop court retenu par une ficelle, âgé d'une dizaine d'années au moins. Il me dévisageait en ricanant, tout en balançant du bout des doigts un serpent de guimauve serti de sa fameuse bague. À coup sûr, il était des bâtiments gris, venu nous espionner. Il me fit un clin d'œil et le père Grenet cracha, imité par le gamin. En repartant, il me sembla les entendre. « Vous m'apprendrez à cracher comme vous ? De ce côté-là, t'es pas mauvais.
mais pour le tabac, tu repasseras. Demande à ton père. Mon vieux, il veut pas. Il me dit de me débrouiller. » Discrètement, je me retournais. Le père Grenet était seul. Plus tard dans la journée, je le revis, accroupi derrière le portillon. Il parlait tout seul. « Quand je serai grand, je serai riche. J'achèterai un carnet de billets de la loterie nationale et je gagnerai. J'aurai une grosse voiture et une belle caravane et dedans une grande vitrine. J'y mettrai ma collection de coquillages, qu'on peut même y entendre la mer. J'y mettrai aussi tous mes lance-pierres et mes couteaux. Il y aura aussi mes pièges. Et j'en fabriquerai exprès pour attraper les filles. Et je leur ferai boire des potions magiques pour qu'elles tombent amoureuses de moi. Surtout une, celle qui courait après sa balle. Elle sera ma femme. Et je lui ferai faire des jupes longues et des châles avec des paillettes d'or. Je serai son homme et elle m'obéira, car je la protégerai contre les voyous des bâtiments gris. Et s'ils veulent se mesurer à moi, qu'ils viennent. Je les attendrai avec mon grand arrêt. Elle aura la belle vie à ne rien faire, que la cuisine, chanter et danser. Elle n'aura pas besoin de mendier, ni de dire la bonne aventure ou jeter des sorts comme mes sœurs, et personne ne s'approchera d'elle. Mais quel culot ! Pour qui se prend-il ? Jamais je ne me marierai avec un bohémien. Et quand je serai grande d'abord, je serai pharmacienne. J'aurai plus de bogots que Monsieur Legac. Ils seront en porcelaine, avec des petites fleurs peintes dessus, comme les belles assiettes de maman. Dedans, il y aura des plantes séchées pour guérir les maladies. J'aurai des tiroirs pleins de boîtes de toutes les tailles et de toutes les couleurs, et dedans des comprimés de toutes les formes. Plus jamais on mettra de suppositoires aux enfants, car je n'en vendrai pas. Je porterai une blouse blanche, et les gens me respecteront. Surtout, j'aurai une balance de Robert Val avec des poids en laiton doré, pas en plomb, pour peser les remèdes que je fabriquerai. Hé, la Rose, on est là ? Tu parles toute seule maintenant ? Rejoins-nous, on va à l'épicerie.
Le changement d'heure. C'est toujours bizarre, le temps que l'on vit après le changement d'heure. Un rituel chez moi depuis que je gaspille mon temps sans les contraintes de retour d'école ou de réunion syndicale. Je me promène dans les rues de la grande ville. Je marche sans but bien précis. Je croise des ombres. Je perçois vaguement les reflets mercantiles derrière les vitrines. Je stagne devant les deux librairies. Je me nourris de la fièvre du soir. Aujourd'hui, il fait déjà nuit quand on sort du ciné. Encore dans les images de la nouvelle vague, les années 50, Godard, Siberg, Belmondo, sa cigarette et surtout la deux chevaux comme celle de l'oncle Orphée. La nuit s'est emparée de la ville. Je me retrouve sur la grande place, dans la rumeur ambiante, le refrain d'une chanson. Elle était là, sur les marches du théâtre. Elle embrase le monde avec son accordéon. Une voix a bouleversé les cœurs les plus sensibles. J'ai reconnu Édith Piaf, Barbara, peut-être Félix Leclerc, des séquences qui me ramènent à mes 10 ans. Le Hainaut, l'année où j'avais séjourné chez ma reine en quittant le Maroc, elle et parrain vivaient dans un coron d'une cité le long de l'Escaut. Alors, je me suis assis sur les marches du théâtre. Tout se mêle, l'avant, l'après. La voix pleine d'âme, les frissons de la ville déforment les images qui défilent dans mon album de souvenirs. Ainsi, des flashs se sont matérialisés, les tartes au sucre, les racontars de guerre de Pépé Florimond, les odeurs de salpêtre dans la cave, la queue du Mickey à la Ducasse, les histoires de cafougnette que je racontais devant tout le monde, les fléchettes dans la véranda, le zéro systématiquement en dictée. La famille du raton à la radio, et puis les Scooby-Doo, les carambars et bien d'autres choses encore. Sur la place, tout paraît tranquille. L'accordéon souligne les bruits de la ville, les lumières des candélabres éclaboussent les façades de lumière mordorée, le chuintement des jets d'eau ponctue les errances du soir, tout un monde en route vers quelque part, un rythme qui lui convient. Lui, tout de noir vêtu, paraît acrobate sur son vélo. L'autre emmène ses chiens vers le sombre d'une ruelle. Le jogger en course vers un ailleurs. La dame absorbée par son portable dans un sens. Un homme, un paquet tenu par une ficelle dans l'autre sens. Une silhouette, elle aussi assise sur les marches, est absorbée dans la lecture d'un très gros livre. Et tous, tous avec des écouteurs sur les oreilles. Personne ne semble faire attention à ma chanteuse. La version du petit bonheur me fait sourire. Qui connaît Félix Leclerc de nos jours ? C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord du fossé. Le chant des souvenirs s'impose une fois de plus. La maison, tout en briques, dans les corons, le rituel autour d'une tasse de café à 8 heures puis à 10 heures, et les autres l'après-midi, de l'eau qui frémit à longueur de journée, les quelques grains de chicorée le roux, la cafetière en alu émaillé qu'on laissait au chaud sur la cuisinière à charbon, après avoir dit « café bouilleux, café foutu ». La sortie de l'école, où j'avais frisé la panique la nuit, m'était tombée sur la tête un soir de décembre vers 16h30. Le ciel chagrin, lourd de gros nuages noirs, la sensation d'une entrée dans le puits noir des enfers. L'accueil très serein de ma reine, pas d'inquiétude, les joues vont maintenant rallonger. Les trajets sur la plage arrière du tramway, le visage au vent, la sensation de dominer le monde, cela juste après que le contrôleur ait poinçonné nos tickets. Le vacarme grincheux d'un moteur de temps me ramène au présent. La dame range son accordéon, me sourit avant de disparaître. Au-dessus des toits, entre deux nuages frêles, quelques étoiles osent apparaître. Mes rêveries des années d'avant s'estompent progressivement. 10 ans. C'est pas bien grand. Quand même, il est une anecdote que je garde avec infiniment de tendresse, que j'ai 1000 fois racontée, la nuit de la Saint-Sylvestre. Il fait froid au milieu de la nuit quand il faut retrouver la maison du 10 rue G après ce temps de fête. Nous rentrons en marchant, nous avons 2 kilomètres à parcourir, pas de transport, Christian, plus petit, a le droit à une poussette. Ils sont 4, les grands, ma reine, parrain, son frère Raymond et sa belle-sœur Julia. Moi, je suis là, étonné de me savoir dehors. Le ciel brille de milliers d'étoiles. Je pense n'en avoir jamais vu autant et aussi longtemps. Le froid pique les joues et les jambes nues et on marche allègrement. Le trafic des tramways s'est tu depuis longtemps. Le silence peut-être, mais eux chantent.
D'une petite loge sous les toits, je dévalais 4 à 4 l'escalier de bois pourri et celui plus bas, sans rampe. Il faut sauter les marches de pierre cabossées, comme les mauvaises cases du jeu de loi, pour ne pas tomber dans la mare. Mon casse-pied de frère, en faisant son petit coq, s'est foulé la cheville. C'est bien fait. Enfin, en bas, je m'amuse dans l'arrière-cour d'un pâté de maison. Ce minuscule carré, sans rayon de soleil pour réchauffer les pots de fleurs oubliés, est pourtant rempli de vie et de souvenirs. C'est le point central de mes jeux, extraordinairement imaginés. Je m'appelle Jaco, un gône au centre d'une traboule en plein cœur de Lyon. Dans le renfoncement de ma cour de récré, au sol, une grille et au-dessus, un crochet. On y descendait les sacs de charbon. Mais je n'y croyais pas. La chaîne un jour a disparu. Dans ce puits sans fond, peut-être des cadavres de pendus. Les rats ont bouffé leurs pieds, car j'ai vu des rats bien gros ici. Où je pense, en secret, qu'en dessous, il y a un trésor. Un jour, j'irai voir. Mais pas tout de suite. Pour l'heure, je me dégourdis les jambes. J'explore le labyrinthe, plus curieux qu'hardi, avec parfois une lampe de poche que je brandis comme une épée. Cette torche est obligatoire, de nombreux passages sont sans minuterie. Le sol mal pavé et ruisselant est un casse-margoulette là aussi. Autre danger, c'est un coupe-gorge où se faufilent des coupe-jarrets, des brigands qui fuient la brigade de gendarmes à leur trousse. J'en ai la frousse. J'en cauchemarde parfois. Aussi, je traverse les traboules avec le trac. J'enrage, car long est à venir le courage. Je vante mes exploits rêvés aux copains. Ils rigolent. Je crois que je les amuse. Nous jouons à cache-cache, au cochon pendu sur la barre de fer qui bloque un pan lourd d'un portail donnant sur une rue de riche. On se fait tirer les oreilles par un concierge. On s'est vengé en renversant la poubelle dans la cour. Enfin, leur compagnie me déplaît. J'aime rester seule avec mes secrets et mes grands exploits cachés. Je suis un mioche dans un monde un peu moche. Je me révèle en lion qui sent pousser ses griffes et devenir griffon. Sur l'écu d'un chevalier du roi, au cinéma, j'ai vu cette bête. Je m'en cuirasse sur la poitrine. Et dans un tournoi ou sur un champ de bataille, je suis le cavalier sans peur et sans reproche. Je suis un héros. Bien qu'aux yeux des proches, je suis plutôt un poltron. Il y a une saloperie d'épreuves qui me met toujours dans la merde et je m'exécute en faisant le fanfaron. Il y a une soupente, un palier entre deux étages, un renfoncement arrondi, la porte de l'enfer. Chaque jour, je dois y aller, vider le pot de chambre, souvent plein à ras-bord. La corvée m'est insupportable. Je pose le vase sur la planche souillée et je me bouche le nez. Un jour où j'ai tremblé avec l'envie de vomir, j'ai renversé le pot de chambre à côté. J'avais oublié de retirer la rondelle du couvercle posée sur le trou. Vexée, je tambourine à la porte de chez moi, car en plus, on m'a enfermée dehors. Mon niafron de père ouvre, en colère du baroufle que je fais. Je reçois une baffe, une torgnole, et cette phrase. « T'as pas fini de faire ton guignol ?»
Vous avez entendu des nouvelles de Philippe Couat et Michel Frappard, lues par les auteurs, ainsi que de Marie-Hélène Grimaud, lues par Anaïk Frappard, et de Roselyne Tinet, lues par Elisabeth Lemerdy. Vous avez écouté le trio Zéphyr, trio à cordes et voix. Cette émission, Le chemin des mots, a été réalisée par Philippe Couat, Michel Frappard, Yves Hamon, Bernard Zieler. Ils vous embrassent. Les textes rédigés ces derniers mois l'ont été dans les ateliers animés par Sylvie Boget. L'émission est diffusée le premier et le troisième mercredi de chaque mois à 17h30 sur Jet FM 91.2. Merci de votre écoute et bise à partager sur le chemin avec vous.